Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié après la mort de Christopher Lasch. La révolte des élites et la trahison de la démocratie est un essai de critique sociale et politique consacré aux fragilités de la démocratie américaine contemporaine. Historien et sociologue, Lasch inverse délibérément le diagnostic classique de la révolte des masses selon lui. Le danger décisif ne provient pas d'une population devenue ingouvernable, mais de groupes dirigeants qui se soustraient progressivement à la vie commune. Il étudie l'effet de la mobilité sociale et géographique, de la mondialisation économique, de l'expertise institutionnelle et de la culture médiatique sur la représentation démocratique. Son propos ne se limite donc pas aux inégalités de revenus. Il concerne la disparition d'expériences, de références et d'obligations partagées entre classes sociales. Lasch défend une conception exigeante de la citoyenneté fondée sur l'autonomie, le débat contradictoire, la compétence civique et une certaine égalité des conditions. L'ouvrage associe analyse historique, polémique intellectuelle et réflexion morale, avec un ancrage américain qui éclaire néanmoins des débats plus larges sur les élites. Le populisme et la souveraineté populaire. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le renversement de la thèse de la révolte des masses. Le geste central de Lasch consiste à déplacer le regard des masses vers les élites. Il répond ainsi à une longue tradition qui attribuait aux foules, à la standardisation culturelle et aux revendications populaires la dégradation de l'ordre démocratique. Pour lui, les groupes les plus instruits, les plus mobiles et les mieux intégrés aux réseaux économiques et professionnels internationaux constituent désormais le facteur principal de désagrégation civique. Ils ne partagent plus nécessairement les institutions, les écoles, les lieux de travail, les services publics ou les horizons matériels de la majorité. Cette séparation réduit leur dépendance à l'égard des communautés nationales et locales, alors même que leurs décisions affectent largement celles-ci. Le terme de révolte désigne donc moins une insurrection explicite qu'une forme de sécession silencieuse. Les élites conservent l'influence politique, culturelle et économique, mais tendent à se dérober aux obligations mutuelles qui devraient accompagner cette position. Lasch refuse ainsi l'opposition simpliste entre dirigeants rationnels et peuple irrationnel. Il montre que le mépris du citoyen ordinaire, la délégation excessive aux experts et la fermeture sociale peuvent affaiblir la démocratie tout autant que les passions collectives. La force du livre tient à cette inversion, qui oblige à interroger les conditions sociales de la représentation plutôt que les seules attitudes du public. Deuxièmement, une méritocratie mobile qui transforme la réussite en séparation sociale, Lasch ne condamne pas l'éducation ni la compétence en elle-même. Sa critique vise une méritocratie qui présente la réussite individuelle comme une justification suffisante de la domination sociale. Dans cette logique, les diplômes, la maîtrise de l'information et la mobilité professionnelle donnent accès à des positions protégées, tandis que les moins favorisés apparaissent comme responsables de leur propre déclassement. La mobilité, traditionnellement associée à la liberté et à la promotion sociale, devient alors ambiguë. Elle permet aux gagnants de quitter les territoires, les institutions et les contraintes où se vivent les conséquences de leurs choix. Les villes globalisées, les professions spécialisées et les réseaux transnationaux facilitent cette autonomie relative à l'égard du destin collectif. Lasch y voit une différence majeure avec les anciennes élites, souvent liées à une communauté par la propriété, le devoir ou le prestige local. Cette observation ne constitue pas une défense de l'aristocratie. Elle souligne plutôt qu'une démocratie ne peut subsister si les privilégiés ne se reconnaissent aucune responsabilité concrète envers ceux avec qui ils partagent un pays. La méritocratie perd sa légitimité lorsqu'elle confond sélection des aptitudes et supériorité morale. Elle crée alors une culture de l'entre-soi où les vainqueurs ne voient plus les inégalités comme un problème politique commun, mais comme le résultat normal des différences de talent et d'efforts. Troisièmement, l'égalité des droits ne suffit pas sans capacité civique partagée, l'ouvrage propose une conception substantielle de la démocratie. Lasch estime que l'égalité juridique, indispensable, ne garantit pas à elle seule une participation réelle au gouvernement de la société. Des citoyens formellement égaux restent politiquement inégaux s'ils ne disposent pas de l'instruction, du temps, de l'indépendance matérielle et de la confiance nécessaire pour comprendre les affaires publiques et y prendre part. Cette idée conduit Lasch à critiquer la professionnalisation de la politique, ainsi que l'extension de l'expertise dans des domaines qui devraient rester ouverts à la délibération. Ordinaire. Lorsque les problèmes collectifs sont exclusivement traduits dans le langage des spécialistes, les citoyens peuvent être traités comme des clients, des publics à administrer ou des individus à corriger, plutôt que comme des acteurs capables de jugement. Lasch accorde donc une importance particulière à l'école, à la transmission historique et aux pratiques de discussion. Ils ne réclament pas une population omnisciente, mais des institutions qui développent le discernement et la responsabilité plutôt que la seule adaptation aux exigences du marché. Sa perspective met également en lumière un cercle vicieux des inégalités économiques fortes limite l'autonomie civique. Puis cette autonomie amoindrie rend plus difficile la contestation démocratique des inégalités. La citoyenneté apparaît ainsi comme une capacité sociale à construire, non comme un simple statut attribué par le droit. Quatrièmement, le populisme comme tradition démocratique et non comme injure politique. Lasch cherche à restituer au populisme américain un sens historique distinct de son emploi contemporain comme étiquette de disqualification. Il y voit une tradition de défense de la liberté politique, de l'égalité sociale et de la vigilance envers la concentration du pouvoir économique et administratif. Dans cette perspective, le populisme ne désigne pas le culte d'un chef ni le refus de toute médiation institutionnelle. Il exprime l'exigence que les citoyens ordinaires puissent exercer un contrôle sur les décisions qui organisent leur existence. Cette réhabilitation permet à Lasch de contester une attitude fréquente chez les élites culturelles assimilées toute défiance populaire à l'ignorance, au ressentiment ou à l'autoritarisme. Une telle réduction évite de répondre aux problèmes réels de la dépossession politique. Elle transforme des conflits portant sur le travail, la redistribution, les services collectifs ou l'autonomie locale en défauts psychologiques supposés du public. Lasch n'idéalise pourtant pas le peuple et ne prétend pas que les opinions populaires sont toujours justes. Son argument est institutionnel et moral. La démocratie exige que les personnes affectées par les choix collectifs soient considérées comme capables de raisonner, de contester et de participer. Le livre invite donc à distinguer les usages démagogiques du mot populisme de sa signification civique originelle. Cette distinction demeure utile pour analyser les discours qui opposent expertise éclairée et volonté populaire sans examiner les conditions matérielles du débat. En dernier lieu, normes communes, limites morales et critiques de la culture de l'émancipation, une part plus controversée de la pensée de Lasch concerne la culture morale des sociétés modernes. Il s'inquiète d'une valorisation permanente de la libération individuelle, de l'épanouissement personnel et de la transgression, lorsqu'elle se détache de tout sens de la responsabilité, de la retenue et de l'obligation envers autrui. Son propos ne se réduit pas à regretter un ordre moral passé. Il soutient qu'une démocratie a besoin de limites intériorisées, car aucune procédure politique ne peut remplacer entièrement la confiance, la parole tenue et la capacité à accepter la contradiction. Les normes communes sont, dans son analyse, des conditions de l'autonomie, plutôt que son contraire, elles rendent possible une vie publique où des individus différents se reconnaissent des devoirs réciproques. Lasch relie cette question à l'affaiblissement de la religion, de la famille, de l'école et des formes locales d'association, sans attribuer mécaniquement la crise démocratique à une cause unique. Cette dimension explique pourquoi le livre peut être lu comme conservateur, en particulier lorsqu'il critique certaines formes de progressisme culturel. Mais elle éclaire aussi sa cohérence, la lutte contre les inégalités et la défense des vertus populaires ne peuvent, à ses yeux, être séparées d'une réflexion sur les mœurs civiques. Le lecteur peut discuter ses conclusions tout en reconnaissant la portée de sa question « Comment préserver une liberté commune sans réduire toute contrainte à une oppression ?» En conclusion, la révolte des élites et la trahison de la démocratie s'adressent aux lecteurs de sociologie politique, d'histoire des idées et de critique du capitalisme, mais aussi à ceux qui cherchent à comprendre la défiance envers les institutions représentatives. Il sera particulièrement fécond pour les étudiants enseignants, journalistes et citoyens qui veulent dépasser les explications réduisant les crises démocratiques soit à la manipulation des masses, soit aux seuls dysfonctionnements électoraux. Lasch fournit des outils pour penser ensemble inégalité, mobilité des privilégiés, pouvoir des experts, école, culture et participation civique. Son intérêt pratique est moins de livrer un programme immédiatement applicable que de rendre visibles les mécanismes par lesquels une société peut perdre le sentiment de son destin commun. L'essai se distingue de nombreux ouvrages sur les élites par son refus des catégories partisanes simples. Lasch ne célèbre ni le marché mondialisé, ni une nostalgie sociale sans examen, ni une vision paternaliste du peuple. Il associe une critique de la concentration du pouvoir à une défense exigeante de l'autonomie populaire et des vertus civiques. Cette combinaison explique sa postérité, mais aussi les controverses qu'il suscite. Son cadre reste principalement américain et certaines de ses analyses morales peuvent paraître datées ou discutables. Toutefois, sa thèse principale demeure stimulante, une démocratie ne s'érode pas seulement lorsque les citoyens se détournent de la politique, mais aussi lorsque ceux qui disposent des ressources les plus importantes cessent de se considérer comme liés au reste de la société. C'est cette interrogation, plus que des réponses toutes faites, qui donne au livre sa place singulière. Si vous souhaitez soutenir Christopher Lasch, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.